Bienvenue à Question d'aujourd'hui, émission qui vous est présentée par l'Office de catéchèse du Québec en collaboration avec Radio-VM et Radio-Galilée. Au micro, Renaud Grégoire, bienvenue à cette émission. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui tient à cœur plusieurs personnes, l'environnement, l'écologie, avec une personne dont je suis extrêmement heureuse qu'elle soit avec nous aujourd'hui, Sandra Côté, qui est responsable de la pastorale environnementale au diocèse de Saint-Jean-Longueuil. Bienvenue, Sandra.
Bonjour, Renaud. Ça me fait plaisir d'être ici avec toi.
Merci beaucoup. Alors, comment, Sandra Côté, on devient responsable de la pastorale environnementale dans un diocèse? Quelles ont été, disons, les grandes étapes de votre cheminement?
Je dirais que ça a commencé très tôt. La nature fait vraiment partie de moi. Très jeune, j'ai été en contact avec la forêt, les champs, les lacs. Je viens de la campagne, du lac Saint-Jean, et mon père, c'était un grand amateur de forêt, et on avait un centre-jardin, ce qui fait que très tôt, j'ai dû apprendre à faire des semis, du repiquage, de la transplantation, l'arrosage de la serre, et aussi, bien sûr, la corvée du désherbage. Je peux dire, j'ai désherbé des kilomètres de rang dans la pépinière. Aussi, mon père, bon, on avait toute la tradition de cueillir des petits fruits. Alors, à chaque saison, que ce soit pour les petites fraises des champs, que ce soit pour les noisettes, les bleuets, on était tout le temps parti pour faire les cueillettes. Mon père aussi, il aimait beaucoup la chasse, la pêche. Et, bon, il m'emmenait souvent avec lui parce que j'aimais ça beaucoup. Et heureusement, dans son parcours, mon père, quand il était jeune, quand il est allé travailler dans le Grand Nord, il a côtoyé un de ses amis, c'était un Innu, un montagnais. Et il lui a tout montré comment lire la nature. Et mon père m'a transmis beaucoup de toutes ses observations, comment lire l'écorce d'un arbre, les petits monticules dans les champs. Bon, ben c'était des cabanes de en tout cas, bref, comment voir où il y a des pistes pour trapper le lapin, le lièvre ou la perdrix. Donc, c'est toutes des choses qui m'ont été inculquées dès mon jeune âge.
Sandra Côté, ça veut dire que la nature, c'est un grand livre et puis il faut apprendre à lire ce qu'elle nous disait.
Oui, puis je suis très curieuse de nature et c'est ça, j'ai fait mes sciences pures et appliquées au cégep. Et par la suite, il n'y a rien qui m'intéressait, mais j'ai exploré l'ingénierie, mais ça n'a pas été vraiment un succès, j'ai pas aimé ça, il y avait beaucoup d'informatique à faire, tout ça, donc avant de me réorienter en horticulture, j'ai fait quelques cours d'écologie et de biologie à l'Université de Sherbrooke. Puis ensuite, j'ai fait, ma formation comme technicienne en horticulture spécialisée en aménagement paysager.
Et qu'est-ce qui vous a amené à maintenant investir dans la pastorale environnementale?
C'est que à un certain moment donné, physiquement, c'était difficile, l'horticulture. Puis J'ai pris un temps d'arrêt, puis c'est ça, j'ai décidé de retourner à l'école, j'ai fait ma formation théologique pour devenir agent de pastoral, et tout le long de ma pratique en catéchèse, quand j'animais des ateliers ou je préparais le calendrier, j'avais toujours en tête d'organiser des activités en lien avec le jour de la Terre. Déjà, le jour de la Terre, ça existait. Et à chaque fois que j'organisais des activités du jour de la Terre, j'invitais toujours les acteurs du milieu, que ce soit au niveau municipal, au niveau provincial ou fédéral, je trouvais ça important, ou les organismes comme les scouts, pour que ça soit vraiment intégré. Et puis un jour, c'est sûr, j'ai eu la COVID, j'ai pris un temps d'arrêt pour me refaire une santé, et l'environnement, la création, je me disais, c'est important, puis je trouvais qu'on pourrait en faire plus au niveau de la pastorale. Et quand je suis allée porter ma démission à Monseigneur Claude, je lui ai dit, si je reviens dans un an et demi, deux ans, parce que Monseigneur disait, y a-tu des chances que tu reviennes? À ce moment-là, j'ai dit, si je reviens, c'est en environnement. Et puis, je pense que la semence a porté fruit parce que c'est lui-même qui a pris l'initiative de me rappeler un an et demi après pour m'offrir un poste en environnement au diocèse. Et depuis ce temps-là, je travaille en pastoral de l'environnement.
Et Sandra Côté, c'est fort intéressant de voir tout ce cheminement depuis le lac Saint-Jean en passant par Sherbrooke et d'arriver à Saint-Jean-Longueuil. Maintenant, quand on parle de pastorale environnementale, qu'est-ce qu'on doit penser, qu'est-ce que c'est vraiment la pastorale? On comprend la pastorale par rapport aux malades, on comprend la pastorale sociale, la pastorale plus catéchétique, mais environnementale, comment vous voyez cette pastorale environnementale?
La pastorale environnementale, pour moi, c'est un peu comme une mise à jour de tout ce qui est la doctrine de la justice sociale, tout ce qui dans le fond, oui, c'est ça. C'est une mise à jour de ça parce qu'il y a depuis Vatican II, on s'est beaucoup soucié de la justice sociale. On a remis au centre une option pour le pauvre, pour les pauvres. Et au travers de ça, depuis 1980, depuis les années 80, un peu avant, mais depuis les années 80, tout ça, on commençait à sentir qu'il se passait quelque chose en environnement. Et puis là, il a commencé à avoir des échos tranquillement. Et puis là, le pape François, avec son encyclique Laudato Si, je pense qu'il est venu mettre vraiment... c'est comme un complément de la pastorale sociale. Sauf que, au lieu d'avoir juste le cri du pauvre, on a le cri de la terre aussi. Parce que, avec l'encyclique, le pape François, il nous a démontré que les deux sont liés. Puis que on peut pas faire une action pour la justice sociale sans penser, parce que s'il y a les personnes vulnérables, s'il y a des personnes qui souffrent, bien souvent, c'est à cause des changements climatiques, à cause de la pollution, à cause de tous les bouleversements qu'on a, à cause de justement des impacts, de la surconsommation effrénée qu'on fait, et tous les effets secondaires de notre consommation, les hausses, les extrêmes de température, les sécheresses, les inondations, ça cause, dans le fond, de la pauvreté parce que, les terres deviennent difficiles à cultiver. On perd complètement des terres aussi à cause de la montée des océans. Les gens se retrouvent dans des bidonvilles parce qu'ils n'ont plus de terres à cultiver ou c'est l'eau salée qui vient contaminer l'eau potable, l'eau douce. Et ces gens-là, ils se retrouvent dans des bidonvilles, ils n'ont plus de but, ils n'ont plus d'endroit où loger ou de vivre convenablement, dignement. Alors, ce qu'ils font, c'est qu'ils essaient de migrer dans les pays pour se refaire. Et là, ça fait les boat people, ça fait les milliers, millions de réfugiés climatiques. Il y a même des gens qui deviennent apatrides aussi. Il y a des gens qui vont complètement perdre leur pays. Parce qu'il y a leurs îles, qui sont des pays, vont complètement être englouties bientôt. Alors, on ne peut pas séparer la justice sociale avec la justice environnementale.
Sandra Côté, vous avez tout à fait raison. Dans l'encyclique Laudato Si, ce sont ces deux dimensions qui sont liées particulièrement. Et le pape nous dit que, effectivement, tout est lié. Quand vous regardez la situation au Québec, est-ce qu'il y a des urgences environnementales que vous pouvez nommer, que vous voyez au Québec? Parce que, on peut voir aussi les impacts des changements climatiques au sud. On a des reportages assez saisissants, mais est-ce qu'il y a des exemples un peu récents qui nous alertent sur cette urgence-là de lier la dignité des personnes et de protéger la Terre?
Mais ici au Québec, dans le nord, le réchauffement climatique se fait à vitesse plus grande que dans le sud. Donc, qu'est-ce qu'on peut observer? C'est des pluies plus fréquentes, d'intensité plus forte, avec des... et puis ça, ces pluies-là, souvent, on l'a vu avec la tempête Debby. On n'a pas eu des inondations à cause des rivières, des débordements de rivières ou des débordements des lacs. Mais par contre, c'est tous les égouts fluviaux les égouts ont débordé littéralement, ce qui fait que ça a alors inondé des sous-sols. Et qui vit la plupart du temps dans les sous-sols? C'est les personnes qui sont en moins bonne situation financière. Donc, on voit tout de suite le lien entre les intempéries, les aléas climatiques extrêmes qu'on vit et l'impact sur les personnes les plus pauvres. Il y a aussi, on va prendre des sécheresses. En ce moment, tous les agriculteurs ou ceux qui font de la production fruitière ou légumière, ils engagent beaucoup d'immigrants, de personnes venues de l'extérieur pour les aider à la récolte des fruits et des légumes. Mais s'il arrive un gel ou s'il arrive une inondation, un champ qui est complètement inondé puis que le propriétaire perd toute sa culture, les gens ne sont pas payés, ils ne seront pas rémunérés, ils n'ont pas vraiment de droits ici. Et ils se retrouvent ici avec des dettes ou ils se retrouvent sans couverture sociale. Puis ça coûte cher de retourner dans leur pays. Donc, ça a un impact sur les migrants qui viennent nous aider. Ça a un impact. Donc, c'est pour ça qu'à chaque fois maintenant qu'on peut plus faire fi de notre consommation, on peut plus faire comme si consommer, ça n'avait pas d'impact. Faut penser que tout ce qu'on fait comme geste, comme consommation, notre mode de vie a des répercussions sur les personnes les plus vulnérables. Ouais.
Quelles sont les grandes urgences pour vous dans le diocèse de Saint-Jean-Longueuil? Est-ce qu'on vous voyez des impacts des changements climatiques, particulièrement en Montérégie, par exemple?
En Montérégie, on a, comme dans plusieurs grandes régions, des personnes en itinérance. Il y a les froids, les extrêmes, hein, les froids polaires. Ça prend de plus en plus de refuges pour ces personnes-là. Ces personnes-là qui se retrouvent sans logement pour plusieurs raisons qui sont expliquées mais qu'on peut pas développer ici, mais l'été aussi, c'est les fortes chaleurs. Là, ça va être les personnes âgées qui vont être touchées par les fortes chaleurs. Dans le fond, les morts, on appelle ça les morts silencieuses. C'est que ça fait pas les manchettes, mais il y a beaucoup de personnes qui meurent maintenant à cause des fortes chaleurs l'été. Et ça, c'est quelque chose de préoccupant. Il y a aussi toute la pollution de l'air. On parle des changements climatiques, mais notre consommation, les routes, l'usure des pneus sur les routes, toutes ces poussières-là combinées, mettons, aux poussières des feux de forêt, tous ces polluants qui se mélangent et qui s'additionnent dans les airs, pour les personnes qui font de l'asthme, il y a de plus en plus d'allergies, il y a de plus en plus de problèmes avec les maladies respiratoires. Ça aussi, ça affecte les gens, ça augmente
une certaine détresse.
La détresse, mais ça remplit nos hôpitaux, ça coûte plus cher au système de santé, et c'est toutes nous qui devons absorber ça. Donc, on a encore là une responsabilité. Plus on va faire de gestes positifs envers l'environnement, plus ça va dégager, ça va alléger le fardeau au niveau hospitalier.
À question d'aujourd'hui, nous recevons Sandra Côté, responsable de la pastorale environnementale au diocèse de Saint-Jean-Longueuil. Eh bien, après avoir décrit ces changements climatiques, les impacts sur les personnes et bien sûr sur l'environnement, allons maintenant regarder vos réalisations dans votre diocèse concernant l'environnement, des exemples concrets de sensibilisation, d'activités que vous avez fait, que vous proposez. Partiellement, vous avez parlé tout à l'heure du jour de la Terre, qui est le 22 avril de chaque année,
oui,
qui est un peu un moment fort dans plusieurs endroits. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire dans la pastorale environnementale?
Oui, cette année, c'est un drôle de hasard. Le jour de la Terre arrive pratiquement la veille de Pâques, donc oui. C'est difficile d'organiser des activités. C'est pour ça que cette année, on a décidé de souligner, parce qu'en fait, l'encyclique Laudato Si, on fête ses 10 ans de parution cette année. Et pour souligner cet anniversaire, on a décidé de faire des projections à grand déploiement, c'est-à-dire que dans la même fin de semaine, les 21 et 22 février, on va couvrir tout le diocèse, dans ce qui équivaut à peu près à 10-12 paroisses qui vont faire les projections du film La Lettre. La lettre qui, dans le fond, explique qu'est-ce que c'est l'encyclique Laudato Si, à qui ça s'adresse. Et ce film, ça dure 1h20 à peu près, et puis ça va être suivi d'un atelier échange. Parce que on trouvait que la lettre, l'encyclique Laudato Si, est encore pas assez connue. Puis quand je fais des présentations, on me dit « Ah, mais il me semble que c'est pas clair le lien entre théologie et écologie. » Et je pense que le fait de présenter, de faire encore plus la promotion de l'encyclique Laudato Si, de montrer comment tout est lié et relié, je pense que ça va apporter une sensibilisation, parce que ça prend définitivement une conversion de cœur pour se mettre... pour opérer une transition, un changement dans notre façon de vivre. Il faut être convaincu, puis il faut trouver l'élan nécessaire. Et c'est ça qu'on espère avec la projection du film.
Pouvez-vous nous raconter un peu ce qu'il y a dans ce film La Lettre que vous allez projeter et que je pense que qui est utilisé aussi dans d'autres milieux? De quoi il est question dans ce film-là? Comment ça peut aider à la conversion du cœur, justement?
Le film La Lettre commence par... c'est une jeune fille, elle a une dizaine d'années, 10-12 ans, et puis elle reçoit une lettre par la poste. Et puis elle l'ouvre et elle s'aperçoit que c'est le pape François en personne qui lui écrit personnellement. Une petite fille comme ça, inconnue, là. C'est présenté comme ça dans le film. Mais c'est pour montrer que le pape, quand il a écrit son encyclique, il s'adressait vraiment à tout le monde. Peu importe qu'on soit chrétien, musulman ou athée. Il a vraiment écrit ça pour que toute personne de bonne volonté, dans le fond. Le film montre, ça nous présente des différents personnages, c'est-à-dire on a un couple de scientifiques, c'est des vrais scientifiques, là. On a un couple de scientifiques, on a une jeune fille militante, on a une personne aussi qui représente les réfugiés climatiques, qui est musulman, on a une personne qui représente aussi les peuples autochtones. Et puis, tous ces gens-là vont converser, dialoguer avec le pape François pour montrer c'est quoi leur réalité. Donc, c'est sûr que les peuples autochtones vont montrer tout ce qui est déforestation, tout ce qui est l'extraction, les mines, comment ça pollue les rivières, comment ça leur enlève du territoire, leur habitation naturelle, etc. Les scientifiques vont montrer le lien entre bien sûr, notre consommation, les gaz à effet de serre, tout ça, et les changements climatiques. On va voir la répercussion aussi, comment les changements climatiques avec la personne qui est réfugiée, comment ça l'a affecté, comment il s'est retrouvé, lui, en tant à devenir un réfugié. On devient pas un réfugié du jour au lendemain.
Et on choisit pas d'être un réfugié. Hein?
Non, effectivement. Donc, ce film-là, puis en plus, c'est que les images sont formidables. Et c'est autant on a des images désastreuses qui font mal au cœur, qui sont déprimantes un peu, mais d'un autre côté, ça nous fait réaliser, oh oui, c'est vraiment laid là, ce qui se passe là. Ça manque l'urgence. Et puis là, d'un autre côté, après ça, ben t'as des sources de solutions. Tu sais, ça se termine sur l'espoir, sur des gens qui se mobilisent. Qui se prennent en main, qui trouvent des solutions pour faire les choses autrement, pour garantir justement un futur sain aux prochaines générations.
Sandra Côté, je pense que vous touchez un point aussi important, c'est que souvent, en parlant de la situation de la planète, des impacts des changements climatiques ici et ailleurs, ça peut donner... un sentiment d'impuissance ou faire vivre un sentiment d'impuissance, et ça, c'est peut-être est-ce que vous trouvez que c'est un défi pour des chrétiens engagés, particulièrement dans la protection de l'environnement, dans la sensibilisation? Est-ce que c'est un défi d'essayer d'aider les gens à vaincre ce sentiment d'impuissance ou peut-être pire encore comme sentiment, l'indifférence?
Oui, c'est un gros défi. L'indifférence, la déresponsabilisation aussi. L'impression que peu importe ce qu'on va faire, on peut rien changer. Je pense qu'il faut... C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de la conversion qui est importante, la conversion du cœur. Pour être capable d'opérer puis de rester engagé dans ce mode-là, il faut vraiment faire un avec la nature, faire un, parce qu'on fait un avec le Seigneur, on fait un avec la création aussi. En faisant un avec la création, on l'aime. Et quand on l'aime, on le fait de façon désintéressée. C'est-à-dire que à chaque fois que je fais une action, je le fais pas pour montrer que je suis bonne ou je le fais pas parce que je vais avoir un avantage ou que ça va me donner quelque chose par après. Non, on le fait gratuitement, on le fait par amour parce qu'on aime la création. Et quand on le fait par amour de façon désintéressée et qu'on n'attend rien en retour, eh bien, que le voisin le fasse pas, c'est pas grave. Puis aussi, aujourd'hui, de plus en plus de gens se mobilisent, puis de savoir qu'on est une grande famille et que peu importe que ce soit des chrétiens, des musulmans ou des personnes athées, peu importe, il y a tellement de gens qui se mobilisent autour sur toute la planète aujourd'hui que de savoir qu'on fait partie de cette solidarité, de cette grande communauté qui veut donner de l'amour à la création, c'est, pour moi, en tout cas, ça me nourrit. C'est ma source d'espérance. Parce que sinon, oui, honnêtement, Renaud, je pense que c'est le premier argument qu'on me donne. Quand je fais quand je vais visiter des équipes pastorales et puis que je leur demande, bon, comment vous accueillez ça? Comment vous vivez ça? La première chose, c'est, les autres, les riches, prennent encore le jet, les avions, ça n'empêche pas les Chinois de faire ci ou les Russes de faire ça ou Trump ou bon. Il y a comme c'est l'autre, hein? On se déresponsabilise. Mais par contre, c'est ça. Puis chaque jour, comme moi, c'est pas parfait encore, mais chaque jour, c'est de se lever. Autant, j'aime bien la chanson de Robert Lebel, mettre le tablier, se mettre en état de service. Chaque jour, c'est se lever et servir par amour, mais moi, c'est comme, c'est ce qui me motive le matin quand je me lève. Quel geste de plus je peux faire aujourd'hui pour améliorer mon mode de vie, pour être plus en harmonie avec la création telle que Dieu l'a créée? C'est un peu ça mon leitmotiv, là.
Se lever chaque jour, mettre son tablier pour aimer la création.
Exact. Oui.
Un jour, un autochtone a dit dans une réunion auquel j'assistais personnellement que le plus grand tort qui avait été fait à l'humanité, c'était de la séparer de la création.
Oh.
De la rendre ignorante, au fond, de la création. Et il me semble que ce que vous nous dites aussi, c'est est-ce qu'on n'a pas à réapprendre à connaître les richesses de la création? Puis les richesses, là, c'est pas tant là, l'or, l'argent qu'on peut extraire, mais tous les éléments qui font que cette création est absolument merveilleuse. Je vous donnerai un petit exemple. Il y a dans une communauté chrétienne qui est justement sur le bord du fleuve à Saint-Anne-de-la-Pérade, il y a un dimanche qui est consacré à un salon écolo. Et ils trouvent chaque année des aspects différents de la nature à mettre en évidence. Et on penserait pas, par exemple, que la chauve-souris a joué un rôle important parce que l'image qu'on a de cet animal-là est pas très positive, disons-le.
Mm-hmm.
Alors, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose aussi à travailler, à redécouvrir, pas juste qu'il y a des belles fleurs, mais il y a toutes sortes d'éléments, de créatures dans la création qui sont absolument formidables et qu'on a à redécouvrir leur rôle aussi, pas juste en fonction de nous, les humains, mais en fonction même de la création même.
Je trouve ça beau ce que tu dis, puis ce que ces gens-là font, et je pense que quand je disais faire un avec la nature, mais pour le faire aussi, il faut prendre le temps, se déposer. Prendre le temps de prendre une marche, mais que ce soit en ville ou dans un parc ou avoir la chance de pouvoir aller dans la forêt, de se mettre en mode contemplation, de se mettre en mode méditation, de prendre le temps de regarder, d'observer la nature, si petite soit-elle, que ce soit sur un fond de brique, mais de voir un oiseau sur une brindille sur une branche, juste d'observer ce petit oiseau si fragile, mais en même temps si fort, tu sais, pour passer au travers les hivers, c'est ça, c'est de se mettre en mode de contemplation, puis de retrouver aussi le dialogue avec Dieu par la nature aussi. On connaît bien la Lectio Divina, où on peut lire la parole de Dieu et prendre le temps de méditer pour qu'elle fasse écho à l'intérieur de nous. Mais c'est la même chose avec la nature. Dieu nous parle à travers sa création. Et c'est juste de prendre le temps de s'arrêter, d'observer, puis de dire, waouh, ça, j'avais pas vu ça. Comment se fait qu'aujourd'hui, je vois ça, j'observe ça? Et qu'est-ce que ça me dit? Qu'est-ce que Dieu me dit à travers cet élément-là de la nature? Prendre le temps de bien reconnecter avec elle. Le fait d'être déconnecté de la création, c'est comme si on pensait que chacune des créatures avait pas sa propre altérité. Mais c'est là où l'humain se trompe. C'est parce que quand on regarde dans la Bible, dans Romains, quand Saint Paul écrit dans Romains que toutes les créatures aussi aspirent à cette liberté, à cette vie éternelle. Donc, il n'y aura pas de résurrection totale tant que toute la création ne sera pas aussi, elle, libérée. Ça veut dire que même à cette époque-là, à l'époque de Saint Paul avait réalisé que la nature avait sa propre altérité. Donc, il faut vraiment retrouver le sacré de la création et pour retrouver son amour, l'amour qu'on a envers elle.
Sur ces magnifiques paroles, Sandra Côté, responsable de la pastorale environnementale au diocèse de Saint-Jean-Longueuil, merci beaucoup. Vous nous ouvrez un chemin de découverte, un chemin de responsabilité et un chemin de dialogue avec Dieu. Un grand merci.
Mais ça me fait plaisir, Renaud.
L'Office de catéchèse du Québec reçoit le soutien de la Fondation Lucien Labelle pour la réalisation de l'émission. Merci à Lisandre Duplé pour Radio-VM et Yannick Caron pour Radio Galilée. Au micro, Renaud Grégoire, merci d'avoir été avec nous pour cette émission de questions d'aujourd'hui et je vous dis à la prochaine.